L'événement le plus important dédié au cinéma et aux droits humains à travers le monde se tient à Genève. C'est le Festival du film et Forum international sur les droits humains, en abrégé FIFDH. La 18e édition de ce festival se tenait au mois de mars dernier et François Gemène, professeur à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège, était l'invité d'un grand entretien sur le thème « Une géopolitique de l'environnement ». L'entretien est mené par le journaliste Sébastien Malot de l'agence de presse Reuters. Vous êtes le 15 mars 2020 à Genève.
Bienvenue au FIFDH 2020, édition 2.0, post-coronavirus. C'est un honneur d'accueillir ce soir François Gemène.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à tous ceux, à toutes celles qui nous regardent en ligne, sur Facebook ou sur le site du festival.
François Gemène, vous êtes professeur de géopolitique de l'environnement à Sciences Po Paris.
Juste.
Vos recherches se concentrent sur les migrations liées au changement climatique et aux politiques d'adaptation au changement climatique. Donc, on va y revenir. Mais avant tout, puisque pour bien s'ancrer dans l'actualité, puisque c'est une journée importante pour le coronavirus qu'on a déclaré pandémique jusqu'à tout récemment, je voudrais faire référence à une entrevue que vous avez accordée à France Inter, où vous soulevez la question de pourquoi est-ce qu'on n'a plus peur du coronavirus que du changement climatique.
C'est vrai qu'on est très frappé, effectivement, de voir que les mesures qu'on prend pour se prémunir du coronavirus sont très drastiques, très contraignantes. On le voit bien aujourd'hui, nous faisons la conférence sans public, les événements publics sont annulés. En Suisse, les écoles, les universités vont fermer. Et donc, quelque part, nous sommes prêts, pour nous protéger de ce virus, pour nous protéger de cette menace, à prendre des mesures beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus drastiques que celles que nous serions prêts à prendre pour nous prémunir du changement climatique. Et donc, je crois que ça doit nous poser la question de demander, au fond, pourquoi est-ce qu'on est prêt à en faire autant, et je ne dis pas qu'on en fait trop, mais on en fait beaucoup, pour nous prémunir du coronavirus, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à faire la même chose pour nous prémunir du changement climatique malgré les menaces qui y sont associées? Et je crois que la réponse, c'est simplement parce qu'on pense qu'on a chacun et chacune un risque immédiat de contracter le virus, tandis qu'on se dit toujours que le changement climatique, ça sera pour les autres, dans des pays lointains, et que finalement, ça ne nous arrivera pas à nous. Et donc, je pense qu'il y a une certaine forme de proximité, d'immédiateté ressentie avec le virus, que nous ne ressentons pas avec le changement climatique. Comme si c'était quelque chose qui allait uniquement se produire dans longtemps, dans des pays lointains. Et je crois que ça doit nous interroger, y compris sur la manière dont nous communiquons au sujet du changement climatique.
D'accord.
Et on peut se dire, peut-être que nous, chercheurs, peut-être au fond qu'on s'est trompé et qu'on a donné des horizons temporels beaucoup trop lointains. Finalement, parler de neutralité carbone d'ici 2050, parler de 2 degrés d'ici 2100, est-ce que vraiment ça parle aux gens? Beaucoup de ceux qui entendent ces objectifs savent qu'ils seront morts d'ici 2100 et donc forcément ça ne leur parle pas beaucoup.
Est-ce qu'il y a, par exemple, The Guardian qui récemment a commencé à parler de la crise climatique plutôt que du changement climatique? Est-ce que ça sert à ce genre à rendre le risque immédiat de changer le langage comme ça? Est-ce que le langage est important?
Le langage est très important, mais je pense que The Guardian fait une erreur en parlant de crise climatique. Il n'y a pas de crise climatique, il n'y a pas de crise liée au changement climatique. Parce que l'idée de crise, ça sous-entend qu'il y a un retour à la normale possible. La crise sous-entend qu'il y a quelque chose d'éphémère, de temporaire, et puis qu'après, on reviendra à la normale. Il y a une crise du coronavirus, une crise sanitaire, où on va prendre des mesures exceptionnelles, et on va accepter de prendre ces mesures exceptionnelles parce que nous savons qu'elles seront temporaires, qu'elles dureront 3 semaines, 1 mois, le temps que la crise se termine et qu'on puisse revenir à la normale. Avec le changement climatique, il n'y aura pas de retour à la normale. Nous avons enclenché une transformation irrémédiable de la planète et donc il n'y aura pas de retour en arrière. Dire qu'il y a une crise climatique, c'est dire aux gens, voilà, on va prendre certaines mesures temporaires et puis on va revenir à la normale. Les mesures que nous devrons prendre pour lutter contre le changement climatique, ce devront être des mesures permanentes. Et ça, je crois, ça fait une grosse différence. Si nous acceptons des mesures aussi contraignantes contre le coronavirus, c'est parce que nous savons qu'elles ne dureront qu'un temps. Pour le changement climatique, nous sommes beaucoup plus réticents à les accepter parce que nous savons que ce seront des mesures permanentes.
Oui, d'accord. Avant de poser la prochaine question, je dois mentionner que si vous écoutez sur Facebook cet entretien, n'hésitez pas à poser des questions. Nous allons choisir quelques questions parmi celles que vous nous posez, puis les adresser à la fin de cet entretien. Je voulais vous parler de... Bon, il y a eu un point de presse cet après-midi en Suisse. La ministre suisse Justice et Police, qui est aussi responsable des enjeux migratoires, a déclaré... lors de la conférence, lors du point de presse, des mesures fédérales sur le virus, que les... Attendez-moi... Ben, finalement, a tenté de décourager les demandeurs d'asile à venir en Suisse, surtout s'ils venaient d'Italie, en qualifiant, je pense, les demandeurs d'asile de... Bon, ils sont comme tout le monde, quoi. Qu'est-ce que vous faites de ça, quoi?
Je dirais que ça s'inscrit quelque part dans un imaginaire collectif qui imagine toujours que l'étranger soit porteur de maladies, soit porteur de menaces. Et c'est vrai que, non seulement à l'occasion de l'épisode du coronavirus, où certains dirigeants étrangers, Donald Trump par exemple, ont parlé d'un virus étranger, comme si le virus avait une nationalité et un passeport, on a vu aussi des épisodes de racisme et de xénophobie au début de l'épidémie contre les personnes d'origine asiatique. Et c'est vrai que même au-delà du coronavirus, quand on discute de santé publique, il y a toujours cette idée que les migrants vont être porteurs de maladies nouvelles ou de virus et que quelque part, il va falloir les mettre en quarantaine. C'est ce qu'on faisait avant, notamment à Ellis Island, l'île aux abords de New York. Pourtant, les recherches montrent qu'en fait, c'est tout le contraire, que les migrants ont plutôt tendance à être en meilleure santé que le reste de la population et ne sont pas particulièrement porteurs de virus ou de bactéries nouvelles. Et donc, je dirais, à mon avis, cette communication gouvernementale s'inscrit quand même dans un imaginaire collectif qui voit l'étranger comme porteur de maladies, comme porteur de menaces, et effectivement qui doit nous inquiéter.
Puis en fait, il y a des recherches aussi qui prouvent que les migrants contribuent à moyen terme souvent aux économies locales, nationales, plutôt que...
Il y a effectivement beaucoup de recherches qui montrent que les migrants représentent un apport à l'économie plus ou moins grand selon les pays, plus ou moins grand selon le type de migrants que vous accueillez. Je pense qu'en Suisse, par exemple, c'est un des pays où la contribution des migrants est la plus significative. Mais je crois qu'il faut se méfier de ce type de raisonnement et de ce type de recherche. Prenez-moi, qui suis chercheur dans une université publique, qui suis donc financé avec l'argent des impôts de mes concitoyens, dont mes recherches sont financées quasiment exclusivement sur l'argent public, je ne rapporte rien à la société. Mes recherches coûtent très cher, je suis, en termes fiscaux, une charge pour la société. Et pourtant, personne ne va aller dire « Tiens, les chercheurs dans les universités publiques, ce sont des charges pour la société parce qu'ils coûtent de l'argent. » Et donc, je me dis, au nom de quoi est-ce que, quelque part, nous allons avoir ce raisonnement pour les migrants où on va se demander sans cesse « Est-ce qu'ils coûtent de l'argent ou est-ce qu'ils rapportent de l'argent ?» Et le fait est qu'ils ont plutôt tendance à rapporter de l'argent qu'à en coûter. Mais même s'ils en coûtaient, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'ils ne sont plus les bienvenus parce qu'ils coûtent de l'argent. Mais quel genre de société est-ce que ce serait où on dirait que les gens qui rapportent, qui ont une contribution nette aux finances, sont les bienvenus et que les autres ne sont pas les bienvenus? Imagine-t-on qu'on puisse avoir ce genre de raisonnement où on se dit, tiens, est-ce que les personnes handicapées coûtent ou rapportent à la société? Est-ce que les personnes âgées coûtent ou rapportent à la société? La réalité, c'est que tous... À un moment donné de notre vie, nous allons coûter à la société et sans doute nous allons rapporter à notre société. Et ce qui fait la solidarité d'une société, c'est que précisément ceux qui rapportent de l'argent à la société financent aussi pour ceux qui coûtent de l'argent à la société. Et c'est ça finalement qui fait un corps social, qui fait société. Et donc, j'ai tendance à me méfier beaucoup de ces études et de ces raisonnements sur l'apport fiscal des migrants, parce que je pense qu'ils nous entraînent sur une pente très glissante.
Parce qu'il y a des questions éthiques très importantes. Bon, maintenant, plongeons-nous au cœur de vos recherches. Vous soutenez que nous sommes entrés dans une ère géologique nouvelle de l'histoire de l'humanité qui s'appelle l'Anthropocène.
C'est pas moi d'ailleurs qui le dit, ce sont les géologues et une commission de géologues qui s'appelle la Commission internationale de stratigraphie qui effectivement estime que nous avons désormais quitté l'Holocène, qui est la période géologique dans laquelle nous étions au cours des 15 000 dernières années, pour entrer dans une nouvelle période géologique, l'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge des humains. Et ce qui caractérise cette nouvelle période, c'est le fait qu'il est désormais possible d'observer l'empreinte humaine dans les couches sédimentaires de la Terre. En d'autres termes, nous avons tellement transformé la planète sur laquelle nous vivons qu'il est désormais possible d'observer notre marque sur cette planète. Et c'est pour ça que ce n'est pas une crise du changement climatique. L'Anthropocène nous dit que ce n'est pas une crise, qu'on est dans une nouvelle période de l'histoire et que forcément, il n'y aura pas de retour en arrière. Ouais. Parce que l'histoire ne marche que dans un sens.
Donc, vous êtes politologue. Qu'est-ce que ça... Pourquoi est-ce que ça vous intéresse comme politologue, cette question d'Anthropocène ?
Parce que, au-delà de sa signification géologique, qui est importante, après tout, on ne change pas d'époque géologique tous les jours. Ça reste un événement important dans l'histoire de la Terre et dans ses 4 milliards et demi d'années d'histoire. Mais je pense qu'il a une signification politique très profonde. Et la signification politique très profonde de l'Anthropocène, c'est qu'on ne peut plus distinguer, comme on le faisait avant, la Terre et le monde. Or, on a toujours, si on y réfléchit bien, distingué la Terre et le monde. La Terre, c'était l'astre céleste sur lequel on habitait, qui était gouverné par les lois des sciences naturelles. Et le monde, c'était l'organisation politique et sociale de la Terre, qui était gouvernée par les lois des sciences sociales. Et d'ailleurs, dans les universités, on étudiait les deux séparément. Sciences naturelles d'un côté, sciences humaines et sociales de l'autre. Et on faisait, au fond, comme si rien de ce qui se passait dans le monde ne pouvait vraiment avoir une incidence sur la Terre. Si je prends ma discipline d'origine, les relations internationales, voilà une discipline dont le postulat de départ est de dire qu'il est possible de comprendre le monde en analysant l'état des rapports et des relations entre les nations. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus comprendre le monde si on ne comprend pas aussi la Terre. Et donc, il faut analyser non seulement les rapports entre les nations, mais également les rapports que ces nations vont entretenir avec la Terre elle-même. La Terre et le monde sont une seule entité, et ça... C'est extraordinairement puissant pour la science politique, pour les relations internationales, parce que ça veut dire que toute une série de fondations sur lesquelles l'ordre mondial, et je devrais parler d'ordre global, de fondations sur lesquelles cet ordre repose aujourd'hui, vacillent complètement sur leur base. Qu'est-ce que ça veut encore dire une frontière quand les frontières politiques sont en train de bouger profondément à cause des changements de la Terre ? Qu'est-ce que ça veut encore dire la souveraineté nationale quand votre territoire est grignoté par la hausse du niveau de la mer ? Qu'est-ce que ça veut encore dire l'État quand, comme c'est le cas pour certaines petites îles, vous risquez de perdre carrément tout votre territoire à cause de la hausse du niveau des mers ? On se rend bien compte que tout ça est en train d'être remis en cause et que quelque part il faut redéfinir complètement un nouvel ordre global. Nous vivons encore sur un modèle qu'on qualifierait de westphalien, c'est-à-dire qui a été inventé au XVIIe siècle, au moment où on fait la paix de Westphalie en Europe pour ramener la paix dans le continent, et où on va poser comme pierre angulaire des relations internationales le concept de souveraineté nationale. L'idée qu'à chaque territoire corresponde une population et corresponde un souverain. En quelque sorte qu'il y ait une forme de juxtaposition, de coïncidence entre les frontières géographiques du territoire avec les frontières démographiques de la population et les frontières politiques de la souveraineté. Et on se rend compte aujourd'hui que cette juxtaposition, elle ne tient plus, que cette coïncidence ne tient plus, et donc ça crée toute une série de peurs et d'insécurités, et ça nous impose à quelque part tout redéfinir. C'est le message de l'Anthropocène pour la science politique.
Mais donc elles ne tiennent plus ces relations en grande partie à cause du changement climatique. Est-ce que c'est l'ultime nexus entre Terre et humanité ?
D'une certaine manière, oui. Il y a d'autres raisons qui font que cette coïncidence ne vient plus. Les migrations en sont une. Vous avez un territoire qui va accueillir plusieurs populations, une même population qui va être dispersée sur plusieurs territoires. Vous avez évidemment la mondialisation qui va transformer les frontières de la souveraineté. Et puis, vous avez peut-être surtout le changement climatique qui vraiment va faire vaciller la base et qui, en quelque sorte, est quelque part le test ultime de notre relation à la Terre.
Et comment est-ce que, parlez-nous-en, qu'est-ce que le changement climatique a comme impact ? Comment est-ce qu'il change notre relation à la Terre ?
Parce que je dirais que toute une série aujourd'hui des grands problèmes qui traversent le monde, toute une série des grands enjeux du 21e siècle sur lesquels nos gouvernements se penchent, qui sont discutés dans les conférences internationales, l'immigration, la santé, le développement, le commerce, la paix et la sécurité, tout ça, tous ces enjeux vont être vraiment transformés en profondeur par le changement climatique. En d'autres termes, vont être transformés en profondeur par la Terre, par la température, par les précipitations, par l'atmosphère. Et donc, ça nous force quelque part à faire entrer le climat en démocratie à faire entrer le climat dans les relations internationales.
D'accord. Puis, l'une des facettes des relations internationales qui vous intéresse particulièrement, ce sont les flux migratoires. Donc, comment est-ce que les conditions environnementales... Bon, premièrement, est-ce que les conditions environnementales n'ont-elles pas toujours entraîné des flux migratoires?
Absolument toujours. À travers l'histoire de l'humanité, la distribution de la population à la surface de la planète s'est toujours organisée en fonction des conditions environnementales. À l'époque préhistorique, l'Europe a été colonisée parce qu'elle jouissait d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes. Les gens se sont établis sur les côtes et dans les deltas parce que les sols y étaient plus fertiles et les communications plus faciles. Et puis, il y a eu toute une série d'événements de dégradation de l'environnement qui ont fait que les gens doivent quitter leur habitat, doivent quitter leur terre. Certaines de ces migrations sont très célèbres. L'évacuation de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755, la migration des paysans du Dust Bowl aux États-Unis au milieu des années 30, où des dizaines de milliers de personnes, de paysans de l'Oklahoma, de l'Arkansas et du Texas, ont dû migrer vers la Californie dans des conditions abominables. Et c'est d'ailleurs à la suite de cette migration que la Californie est devenue l'État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis. Et donc toute une série de migrations qui ont été fondamentales, qui ont été vraiment fondatrices dans l'histoire de l'humanité, en réalité étaient des migrations liées à l'environnement. Mais quand on a conçu pourtant nos politiques d'immigration et le droit des réfugiés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a en quelque sorte considéré qu'il n'y avait plus que deux catégories de migration et qu'il était possible de ranger les gens dans une catégorie en fonction du motif de leur migration. On a mis d'un côté les réfugiés politiques qui fuyaient leur pays à la suite de persécutions et de violences et qui devaient être protégés par un régime spécial international, le droit d'asile formalisé dans la Convention de Genève de 1951. Et puis de l'autre côté, on a dit qu'il y avait les migrants économiques qui quittaient leur pays à la recherche d'un meilleur salaire, d'une meilleure vie. Et eux, on a sous-entendu, on a estimé qu'ils partaient de leur plein gré et que c'était à l'État de destination de décider dans quelles conditions ils voulaient les accueillir. Et quelque part, aujourd'hui encore, nous fonctionnons avec ces deux catégories et de surcroît, sur ces deux catégories, nous avons posé des jugements normatifs. De plus en plus, on sent bien dans le discours que c'est un peu comme s'il y avait les bons réfugiés politiques d'un côté qu'il faudrait accueillir et de l'autre, les mauvais migrants économiques qu'il faudrait renvoyer chez eux. Et la réalité aujourd'hui, c'est que ces catégories servent bien davantage à justifier des politiques migratoires souvent extraordinairement répressives dans les pays d'accueil plutôt qu'à décrire une réalité empirique. Parce que sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que d'une part, il y a de plus en plus de gens qui doivent migrer en raison des dégradations de leur environnement, et le changement climatique, en quelque sorte, nous fait redécouvrir ce motif de migration. Et puis surtout, les motifs de migration sont profondément imbriqués les uns dans les autres, s'influencent mutuellement, au point que je ne crois plus qu'il soit encore possible aujourd'hui de catégoriser les gens en fonction du motif de leur migration. Les migrations aujourd'hui sont devenues infiniment plus complexes, plus étalées dans le temps et l'espace qu'elles ne l'étaient dans les années 50 et 60. Et donc, quelque part, nous devons aujourd'hui adapter nos catégories politiques et juridiques à cette nouvelle réalité des migrations.
Donc, le système migratoire est mésadapté, le système migratoire actuel est mésadapté à ce qu'on appelle les réfugiés climatiques.
Complètement. J'ai presque envie de dire que nos cadres de pensée aujourd'hui sur les migrations sont encore holocéniques, ouais. Alors qu'ils devraient devenir anthropocéniques.
Ah ben voilà, ouais, ouais. Mais ils sont mésadaptés donc du point de vue des textes, puis aussi du point de vue, vous parlez de la stratification, si vous voulez, des migrations. Donc quelqu'un peut être un migrant peut-être économique pour commencer, puis ensuite tomber sous les conventions de Genève, devenir. Donnez-nous un exemple, par exemple.
Absolument. Si on prend par exemple des migrations qui proviennent d'Afrique de l'Ouest et qui sont aujourd'hui un grand sujet d'attention pour les gouvernements européens et certains continuent à arriver en traversant la Méditerranée. Ce qu'on voit dans les recherches qu'on mène dans plusieurs pays, au Bénin ou au Sénégal notamment, c'est que très souvent, les familles qui habitent en milieu rural vont envoyer un de leurs fils en ville pour qu'il trouve un revenu complémentaire. Pourquoi ? Simplement parce qu'en Afrique de l'Ouest, environ la moitié des familles dépendent directement de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Et l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie. Et donc, ça veut dire que s'il fait un peu plus chaud que d'habitude, ou s'il pleut un peu moins que d'habitude, les familles n'ont plus aucune source de revenus, perdent leur source de revenus, et donc sont contraintes d'envoyer un de leurs enfants, souvent un de leurs fils, en ville dans l'espoir qu'ils trouvent un autre boulot et qu'ils puissent leur envoyer un revenu additionnel. Mais aujourd'hui, les mégapoles africaines ont beaucoup de mal à absorber cet afflux de migrants venus des campagnes, et c'est là où beaucoup de passeurs et de trafiquants, évidemment, vont quelque part voir l'occasion d'un business et vont quelque part aller voir ces jeunes hommes qui sont soumis à une pression intense de la part de leur famille et vont leur dire « Si tu veux, viens travailler pour moi, je te donnerai un revenu que tu pourras envoyer à ta famille. » Et c'est comme ça que de proche en proche, ils se retrouvent pris dans un engrenage, de plus en plus endettés vis-à-vis de leurs passeurs, de leurs trafiquants, qui vont les emmener de proche en proche, qui au Niger, qui au Mali, pour parfois arriver finalement en Libye. Et la Libye, traditionnellement, dans l'esprit des migrants africains, c'était une sorte d'Eldorado. C'était un pays où l'économie du pétrole était florissante, où on pouvait gagner de l'argent facilement. Et aujourd'hui, malheureusement, la Libye est devenue presque un camp de concentration à ciel ouvert pour les migrants, où ils vont subir des violences, des tortures. Certains vont être même vendus comme esclaves sur des marchés de Tripoli. Et donc, certains ne vont pas avoir d'autre choix que d'embarquer sur des bateaux et de tenter la traversée vers l'Europe, parce que c'est leur seule porte de sortie. Ils vont préférer risquer leur vie en Méditerranée plutôt que de la perdre en Libye. Et donc on voit, si on décortique les différentes étapes de cette migration, qu'on a des motifs environnementaux qui les font aller de la campagne vers la ville, des motifs économiques qui vont les faire voyager à travers tout le continent ou la sous-région parce qu'il faut qu'ils envoient de l'argent à leur famille, et puis des motifs politiques de violence et de persécution qui vont les amener à tenter de franchir la Méditerranée. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils vont arriver en Europe, et une fois que nous allons les parquer de façon indigne, qui à Lesbos, qui dans d'autres camps, nous allons les considérer simplement comme des migrants économiques, parce qu'on va considérer qu'ils viennent de Côte d'Ivoire ou du Sénégal, d'un pays qui n'est pas en guerre. En fait, si nous nous intéressions un petit peu plus aux raisons qui les poussent à migrer, à leur itinéraire, aux migrations internes que nous avons tendance aujourd'hui à considérer comme strictement différentes des migrations internationales, en réalité, nous aurions, je crois, un regard tout à fait différent sur les migrations. Mais la réalité, il faut bien le dire, c'est que les migrations vues d'Europe ne nous intéressent qu'à partir du moment où il y a un franchissement de la Méditerranée. Tout ce qui se passe avant, ça ne nous intéresse guère et c'est une erreur tragique.
Mais donc, vous parlez d'un chevauchement entre les effets du changement climatique et l'immigration. Pourtant, ceux qui ont tenté de mettre de l'avant peut-être de nouvelles façons d'adresser l'immigration due au changement climatique, ils ne semblent pas très intéressés par cette perspective-là. Donc, quelle est la dynamique politique qui fait que les pays bloquent quand vient le temps d'essayer de négocier des traités qui vont donner de nouveaux droits aux réfugiés climatiques.
Je crois qu'un gros problème, quand on a commencé effectivement à parler des réfugiés climatiques, puisque c'est le terme qui est souvent utilisé et dans les médias et dans le langage courant, et je n'ai pas de problème fondamental avec ce terme, quand on a commencé à parler des réfugiés climatiques, on les a tout de suite identifiés comme des gens qui étaient dans des pays lointains et comme une sorte de risque futur que nous pouvions éviter en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui encore, même si je pense que beaucoup de gens voient de quoi on parle quand on évoque les réfugiés climatiques, au début de mes recherches, quand je parlais des migrations liées au climat, beaucoup de gens s'imaginaient que je parlais encore des animaux et me parlais des oiseaux ou des poissons. Aujourd'hui, je pense que les gens réalisent effectivement que le changement climatique va avoir un impact important sur les migrations. Mais ils le voient encore que comme quelque chose de très distant et de futur, comme quelque chose qu'on pourrait éviter en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Et très souvent, c'est un argument que beaucoup d'activistes et parfois de chercheurs vont utiliser pour, quelque part, sensibiliser les pays industrialisés à la nécessité de réduire leurs émissions. Ils vont leur dire, attention, vous avez intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre, parce que si vous ne le faites pas, alors vous allez vous retrouver avec des millions de migrants et de réfugiés qui vont venir frapper à votre porte. Et donc, on a, quelque part, utilisé cette figure des réfugiés climatiques comme une sorte d'épouvantail pour faire peur au gouvernement et pour les sensibiliser à la nécessité de réduire leurs émissions. Mais faisant ça, même si évidemment le but est noble, et même si les intentions sont bonnes, on contribue quelque part à renforcer un discours xénophobe sur les étrangers, sur les migrants, en les présentant comme une menace à éviter à tout prix, et comme le moyen d'intéresser quelque part les pays industrialisés et leur population à la lutte contre le changement climatique. Et faisant cela, je pense qu'on rend un très mauvais service à ceux qui doivent migrer en raison du changement climatique. D'abord parce qu'on va les présenter comme une sorte de risque futur, alors qu'ils ont besoin dès aujourd'hui de réponses politiques, d'assistance et de prise en charge, qu'on va les présenter comme une menace, voire comme une sorte d'invasion qui serait demain complètement ingérable, alors qu'en réalité nous avons les moyens aujourd'hui largement de gérer et d'organiser les migrations, y compris celles qui sont liées au changement climatique, et que donc finalement nous ne nous intéressons guère aux migrants pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent. Et le risque, c'est que la réaction des États à qui on adresse ce message ne soit pas du tout de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais de renforcer leurs frontières.
Mmh. Bon, premièrement, avons-nous les moyens de gérer ces grandes migrations mondiales ?
Oui, je dirais parce qu'elles ne vont pas se produire toutes d'un coup, subitement. Ce sont des migrations qui vont être étalées à travers le temps et à travers l'espace, qui aujourd'hui font peser effectivement un poids qui est parfois difficile à gérer sur certains pays en développement, mais que nous aurions effectivement les moyens d'organiser. Je dirais que le gros problème, et ce n'est pas du tout propre aux migrations liées au climat et à l'environnement, je dirais que c'est une caractéristique des migrations en général, c'est que nous avons toujours tendance à attendre le dernier moment avant de nous occuper des migrations. C'est-à-dire que nous attendons toujours d'être confrontés à une crise, à un afflux massif, avant de prendre de vraies mesures de politique d'asile et d'immigration. Et il y a un vrai impensé politique derrière cela qui fait que nous allons toujours nous placer dans une position comme si ce qui comptait, c'était d'essayer de résister aux migrations, quelque part de les maîtriser, de les juguler, alors que le mieux que nous puissions faire, en réalité, c'est d'essayer de les organiser dans l'intérêt de tous. Résister aux migrations, c'est une entreprise qui est condamnée à échouer. C'est comme vouloir empêcher le jour de succéder à la nuit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Mmh. C'est pareil avec les migrations. Et donc, il faut accepter que les migrations, je crois, soient une transformation structurelle de nos pays, de nos économies, de nos sociétés, et voir comment on peut les organiser au mieux. Mais le problème, c'est que les gouvernements sont très réticents à organiser les migrations. Le résultat, c'est qu'on préfère attendre le dernier moment, être dans une logique strictement réactive, et c'est comme ça, bien entendu, que des crises humanitaires se déclenchent, et c'est comme ça que, dans l'esprit du public, la migration est toujours synonyme de crise ou de menace, et qu'on reste plongé dans cette rhétorique et dans cet imaginaire de crise qui, évidemment, ne nous permet pas de penser les migrations sur le long terme, ne nous permet pas d'organiser de véritables politiques d'asile et d'immigration en partenariat avec les pays d'origine et de transit.
Mmh. Tout à l'heure, vous parliez d'épouvantail que les États utilisent lorsqu'on parle de réfugiés climatiques. Donc, pour ceux que ça intéresse, combien est-ce qu'on a dénombré, il y a combien de réfugiés climatiques, si on peut les appeler comme ça? Quelles sont les prévisions?
C'est très compliqué de donner des chiffres, d'abord parce que beaucoup de chiffres qui circulent dans les médias, etc., sont assez imprécis. Par exemple, on ne sait pas s'il s'agit de chiffres sur une année donnée ou s'il s'agit de chiffres cumulatifs sur une période donnée. Quand on dit, par exemple, 250 millions de migrants climatiques en 2050, est-ce que c'est 250 millions pour l'année 2050 ou est-ce que c'est 250 millions entre maintenant et l'année 2050? Évidemment, ça fait une énorme différence et pourtant une grande imprécision là-dessus. Alors, quels sont les chiffres qu'on peut donner? Il y a un institut basé à Genève, précisément, l'Internal Displacement Monitoring Center, l'IDMC, qui, depuis 2008, compile chaque année les données des déplacements liés aux catastrophes. Quelle que soit la nature de la catastrophe, qu'elle soit d'origine hydroclimatique, des inondations, une sécheresse, un glissement de terrain, ou qu'il s'agisse de catastrophes géophysiques, des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a chaque année environ 20 millions de personnes qui sont déplacées en raison de catastrophes. Ça veut dire qu'il y a chaque année entre 2 et 3 fois plus de personnes qui sont déplacées par des catastrophes que de personnes qui sont déplacées par des guerres, des conflits et des violences. Mmh. C'est déjà un chiffre qui devrait nous interpeller en soi. La toute grande majorité de ces catastrophes, environ 90%, 90% pour les Français qui nous regardent, sont liées à des catastrophes d'origine hydroclimatique, c'est-à-dire des catastrophes qui vont être exacerbées, accentuées par les effets du changement climatique. Et même si les chiffres de 2019 ne sont pas encore disponibles, je peux déjà vous dire que ce sont des chiffres qui vont battre tous les records, notamment en raison de très nombreuses catastrophes qui ont marqué l'année 2019. Donc ça, ce sont les chiffres qu'on peut donner pour les personnes déplacées par des catastrophes. Et à ce chiffre vont s'ajouter les personnes qui sont déplacées par des dégradations plus lentes de leur environnement, par la dégradation des sols, par la baisse des précipitations, par la hausse du niveau des mers, bien entendu.
Et par les tremblements de terre.
Non, les tremblements de terre sont comptés dans les catastrophes. Ce sont des catastrophes brutales. Mais donc, aux catastrophes s'ajoutent les personnes qui sont déplacées par des changements plus lents. Et là, on va avoir des migrations qui sont beaucoup plus souvent étalées dans le temps et l'espace, qui ne vont pas mobiliser une réponse des ONG ou des agences humanitaires, et donc qui sont très, très difficiles à compter. C'est vraisemblablement plusieurs millions supplémentaires, mais là, on n'a absolument pas de chiffres, y compris parce que beaucoup de ces migrations ont lieu sur de courtes distances, à l'intérieur des frontières d'un pays, et donc échappent à tout comptage statistique. Pour ce qui est des prévisions, en réalité, ça va très largement dépendre des politiques que nous allons mettre en place aujourd'hui. Est-ce qu'on va retrouver le chemin des objectifs de l'accord de Paris, ou est-ce qu'on va, comme c'est le cas aujourd'hui, continuer à se diriger vers une hausse de 4 degrés, voire plus, de la température d'ici la fin du siècle? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme mesure d'adaptation? Quelles sont les populations qu'on va protéger? Quelles sont les populations qu'on va choisir de relocaliser? L'an dernier, le gouvernement indonésien a pris la décision, que j'imagine longuement mûrie, mais aussi douloureuse, de déplacer sa capitale Jakarta de l'île de Java vers l'île de Bornéo. Ça va être évidemment un déplacement massif de population organisée. Et puis évidemment, il y a aussi ce qu'on va faire en termes de politique migratoire. Est-ce qu'on va chercher à maintenir coûte que coûte les gens chez eux? Et pour le moment, la priorité de quasi toutes les politiques d'asile et d'immigration, c'est d'essayer de fixer les gens sur leur territoire. Mais ça veut dire que si on fixe les gens sur leur territoire, si on les rend immobiles, ça veut dire qu'on les rend aussi très vulnérables aux impacts du changement climatique. Parce que ça veut dire qu'ils vont devoir les affronter de plein fouet en quelque sorte. Et une politique d'adaptation, ça pourrait être justement de permettre la migration et de la faciliter. Est-ce qu'on va essayer de l'empêcher ou de la faciliter? Là encore, le nombre de personnes déplacées à l'avenir va dépendre énormément de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que ce serait une erreur d'imaginer qu'on va pouvoir, en analysant et en modélisant les impacts futurs du changement climatique, qu'on va savoir combien de personnes seront déplacées dans le futur. Ça va dépendre bien plus largement de ce que nous faisons aujourd'hui politiquement que de la manière dont le climat va réagir.
On a parlé des migrations, des migrants qui passent, qui croisent les frontières, mais il y a aussi les migrations internes, quoi.
Qui sont beaucoup plus nombreuses, voilà, que les migrations internationales et auxquelles on ne s'intéresse pas du tout.
Voilà, puis étant reporter aux États-Unis, il y a de plus en plus d'universitaires qui parlent de « managed retreat », donc d'une, comment est-ce qu'on dit en français, une planification stratégique de retrait, ouais, des zones côtières ou autres. Quel est votre avis sur cette question? Est-ce que c'est propre aux États-Unis? Est-ce que c'est un discours qui est international?
C'est un discours qui est vraiment international.
D'accord.
Je dirais qu'il y a évidemment une très grande vulnérabilité de certaines zones côtières aux États-Unis.
De quoi il s'agit, si on peut expliquer aux téléspectateurs, de quoi il s'agit comme discours?
Donc, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui habitent le long des côtes et dans les deltas. Il y a énormément d'infrastructures, énormément de bâtiments, de logements, d'aéroports, de stades de football qui sont construits directement en bord de côte. Et le nombre de personnes qui habitent en bord de côte continue d'augmenter, d'ailleurs, année après année. Or, on sait que le niveau des mers va monter. Va monter entre 1 mètre et 2 mètres d'ici la fin du siècle, donc on est sur une projection optimiste ou pessimiste. Mais ça veut dire que toute une série de zones côtières vont être inondées de façon permanente. Et que donc, pour parer à cela, il va falloir opérer des opérations de retrait côtier, c'est-à-dire ramener à l'intérieur des terres une série de bâtiments et de populations qui se trouvent aujourd'hui en zone côtière. C'est en quelque sorte ce que le gouvernement indonésien a décidé de faire avec Jakarta, qui est situé au bord de la mer et qui, on le sait, est inondé très régulièrement, encore à la fin de l'année dernière, et qui risque de l'être de façon permanente avec le changement climatique. Et donc aujourd'hui, de plus en plus de gouvernements sont en train d'envisager la manière dont ils vont pouvoir déplacer certaines de leurs populations à l'intérieur des terres, de manière à les mettre à l'abri et de manière à ce qu'elles ne soient pas inondées. Ça se fait de façon très très différente dans plusieurs pays et malheureusement souvent au mépris de certains droits humains assez élémentaires. Je prends par exemple un exemple au Vietnam. Le Vietnam a déjà depuis plusieurs années un programme qui s'appelle Living with Floods, vivre avec les inondations, qui vise à déplacer des villages situés dans le delta du Mekong vers les collines intérieures, de manière à leur éviter d'être inondés. Mmh. Le problème, c'est que les gens sont rarement informés du processus, n'ont pas vraiment le loisir de choisir où ils vont habiter, ne reçoivent pas de compensation financière, et donc il y a toute une série de droits qui sont bafoués dans ce processus. Et ça va forcément s'accentuer, parce qu'au Vietnam, même si on est dans un scénario optimiste d'une élévation d'un mètre du niveau de la mer, ça veut dire que 25 000 km de territoire pourraient être perdus. 25 000 km², c'est l'équivalent de 10% de la superficie du Vietnam. On est donc là face à un pays qui pourrait perdre jusqu'à 10% de sa superficie et qui est organisé le long d'une côte. Le Vietnam, géographiquement parlant, c'est avant tout une très longue côte et vraisemblablement, il ne sera pas possible au gouvernement vietnamien d'ériger une immense digue sur toute la surface de sa côte. Et donc, il va falloir choisir entre les zones qu'on va protéger et les zones qu'on va abandonner. Et donc entre les populations qu'on va maintenir en place et les populations qu'on va déplacer. Ça sera un choix extraordinairement difficile, qui pour le moment n'est pas véritablement encadré par des lignes directrices ou par du droit international. Et donc ce type de processus est évidemment sujet à énormément d'abus en matière de droits humains.
Voilà.
Je pense que là, il y a véritablement une mesure que la communauté internationale devrait prendre et devrait se saisir de cette question, parce que là, il y a des violations patentes des droits humains, présentes et surtout à venir.
Parce qu'il va y avoir des facteurs socio-économiques, quoi. On va pas nécessairement toujours privilégier les bidonvilles. Ou si on parle stratégique, on prend aussi pour acquis que ce sont de bonnes démocraties qui vont établir de bonnes stratégies, mais dans des régimes autoritaires, est-ce que les retraites stratégiques vont bénéficier à tous?
Et même dans des démocraties, ce sont rarement les populations les plus pauvres ou les plus marginalisées qui sont prioritaires dans les programmes d'adaptation. Et c'est vraiment un des points qui va recevoir beaucoup d'attention dans le prochain rapport du GIEC sur lequel nous travaillons en ce moment. Ça sera non seulement l'impact du changement climatique lui-même sur les inégalités et les populations les plus pauvres, mais également l'impact des réponses au changement climatique sur les inégalités et la pauvreté. Et on constate que, en quelque sorte, les pauvres et les plus marginalisés, qui sont aussi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, sont quelque part doublement pénalisés, à la fois parce qu'ils sont plus vulnérables aux effets du changement climatique, mais aussi parce qu'ils auront moins accès à des logements ou à des transports décarbonés et qu'ils seront rarement prioritaires dans les stratégies d'adaptation et notamment dans les stratégies de retrait côtier. Regardons les incendies en Californie qui ont eu lieu l'an dernier. On a vu déjà que les familles les plus riches pouvaient faire appel à des compagnies de pompiers privées pour se protéger, pour protéger leurs habitations. Mmh. Et donc on voit très bien comment les réponses au changement climatique, y compris en situation d'urgence, peuvent créer et renforcer les inégalités. Autre exemple, au moment de l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, il y a maintenant plus de 15 ans de cela, on a bien vu que les 60 000 personnes qui étaient restées bloquées dans la ville inondée et qui ont vécu un calvaire pendant 4 jours et 4 nuits, elles appartenaient aux segments les plus défavorisés de la population. Elles étaient souvent plus pauvres, elles étaient souvent noires, elles avaient souvent moins accès à l'information, elles étaient en moins bonne santé, et ce sont des populations qui ont été quelque part abandonnés, oubliés dans les plans d'évacuation. Mmh. Et donc on voit bien que même dans les pays industrialisés, il y a un impact très fort sur les inégalités économiques et sociales liées aux réponses au changement climatique.
Il y a eu quelques développements, un développement particulier qui me frappe, du Comité des droits de l'homme qui a déclaré, je crois qu'on ne pouvait pas refouler des réfugiés si leur vie était en danger à cause des effets du changement climatique tout récemment en janvier. Qu'est-ce qui se passe au niveau des Nations Unies, par exemple? Est-ce qu'il y a des développements qui vont donner de nouveaux droits dans les années à venir aux réfugiés climatiques?
C'est compliqué. J'ai envie de dire que paradoxalement, le développement le plus significatif il se passe en dehors des Nations Unies.
D'accord.
C'est la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, mm-hmm. en anglais Platform on Disaster Displacement, PDD, qui est une petite organisation internationale qui était montée en 2016 à la suite d'un processus intergouvernemental, mais hors des Nations Unies, qui s'appelait l'initiative Nansen, et qui était menée à la fois par les gouvernements suisses et norvégiens, et qui a visé à construire une sorte d'agenda de protection, en quelque sorte un document qui précise comment renforcer les droits des personnes déplacées par des dégradations de leur environnement. Et ce document a été approuvé par 110 gouvernements à Genève, beaucoup de choses se passent à Genève, au mois d'octobre 2015, et en quelque sorte, la plateforme on Disaster Displacement a été créée pour superviser la mise en œuvre et l'application de ces droits pour les déplacés. Pourquoi est-ce qu'il a fallu quelque part contourner les Nations Unies? Parce qu'il y a encore aujourd'hui énormément de blocages aux Nations Unies sur cette question. C'est une question extraordinairement sensible qui a été abordée, par exemple, dans le Pacte mondial sur les migrations, qui est un processus onusien, qui contient, et je m'en félicite, une section complète consacrée au changement climatique et qui pourrait initier une vraie coopération entre gouvernements sur ce sujet. Mais on a vu à quel point ce document a été refusé par de nombreux gouvernements extrémistes et nationalistes, y compris en Europe, et je m'en désole. Et comme ce document, aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il était rangé dans un tiroir et qu'il va rester lettre morte, alors qu'il aurait pu être le tremplin pour une coopération renforcée sur ces questions. Et donc, c'est vrai qu'il y a, quelque part, un déficit de coopération sur ces questions, et qu'on sent bien aujourd'hui qu'il y a plus vraiment d'appétit pour cette coopération internationale, et c'est assez dramatique. On le voit aussi dans la gestion de la crise du coronavirus. Mmh. C'est une crise sanitaire mondiale, et pourtant on a l'impression qu'il y a 120 ou 150 gestions nationales de la crise, où chaque pays va prendre des mesures différentes les uns des autres, où les pays vont fermer leurs frontières, parfois de façon complètement irrationnelle. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout de gestion internationale de cette crise, qui est pourtant une crise mondiale. Mmh. C'est un peu comme si les pays cherchaient à s'isoler les uns des autres, et malheureusement, alors que les enjeux qui nous relient sont de plus en plus globaux, effectivement, ça ne peut pas marcher de cette manière-là.
Mais l'initiative Nansen, sauf si je me trompe, elle est non contraignante.
Elle est non contraignante. Il n'y aura de toute façon plus rien de contraignant dans le système international. Je pense qu'il faut faire notre deuil de ces grands accords un peu top-down qui étaient décidés par quelques États et puis qui s'imposaient à tous. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai encore eu des cours de droit constitutionnel où on apprenait la hiérarchie des normes, où on apprenait que c'était d'abord le droit international, les traités, les conventions, ensuite la Constitution, et puis les lois, et puis les décrets d'application. Tout ça a complètement changé aujourd'hui. Mmh. Plus aucun pays, je pense, ne considérerait que les traités et les conventions internationales sont supérieures à ces lois nationales. Et quelque part, l'accord de Paris, si l'accord de Paris sur le climat en 2015 a pu être signé, c'est parce qu'il reconnaissait ce renversement de l'hiérarchie des normes, qu'il demandait à chaque pays quel était son plan national, ses intentions nationales, et puis qu'il les assemblait dans un document plus ou moins cohérent, mais qui n'est pas contraignant. Aujourd'hui, presque plus aucun gouvernement n'est d'accord d'accepter des règlements contraignants supranationaux. On le voit même dans l'Union européenne aujourd'hui, il y a de plus en plus de gouvernements qui refusent l'idée qu'il puisse y avoir des règlements ou des règles européennes qui contrarient leur législation nationale. Et donc même au niveau international, quand on va arriver à des accords contraignants, il est possible qu'il y en ait encore, mais soyons très clairs, plus rien ne se passe si jamais on ne respecte pas les contraintes de cet accord. Le protocole de Kyoto, et c'est sans doute un des derniers textes contraignants en matière environnementale, avec des sanctions prévues pour les États qui ne respectaient pas leurs obligations, le protocole de Kyoto est arrivé à expiration l'année dernière dans l'indifférence générale. Personne n'a fait le bilan de qui avait vraiment respecté ses obligations et qui ne les avait pas respectées. Le Canada, en 2011, est sorti du protocole en voyant qu'il ne respecterait pas ses obligations. Ouais. Il n'y a eu aucune sanction appliquée contre le Canada. Et donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, et je suis le premier à m'en désoler, je ne dis pas du tout ça de gaieté de cœur, mais que le droit international, y compris le droit international contraignant, est devenu une sorte de fantasme. Ce sont les gouvernements qui décident quand ils appliquent le droit international ou pas. La Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 est violée aujourd'hui quasiment quotidiennement. La Grèce a suspendu pour un mois la possibilité de demander l'asile sur son territoire en violation complète de la Convention de Genève. Personne ne va imposer la moindre sanction à la Grèce. Et au contraire, tout le monde va dire merci la Grèce d'être le bouclier, le rempart face aux réfugiés qui arriveraient dans l'Union européenne, alors que la Grèce viole aujourd'hui, chaque jour, à l'instant où nous parlons, la Convention de Genève. Ouais. Et donc nous vivons encore dans une sorte de fantasme qui nous pousse à croire que la solution viendrait du droit international et que le droit international va s'imposer par lui-même. Malheureusement, nous ne vivons plus dans ce monde-là.
Donc si on retourne à la question, on va bientôt prendre les questions des gens sur Facebook. Mais avant je voulais vous parler d'adaptation. Donc, premièrement, pour ceux qui sont ni spécialistes ou pas familiers avec ce terme technique, quand on parle d'adaptation, on avoue qu'on a fait défaut.
D'une certaine manière. C'est pour ça que pendant longtemps, on a refusé de parler d'adaptation. Ouais. Il y a deux façons de lutter contre le changement climatique. Soit vous pouvez lutter contre le problème à sa source, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre pour essayer que les impacts soient les moindres possibles. Soit vous constatez que les impacts ont déjà lieu et auront lieu et vous essayez de les atténuer au maximum et à ce moment-là, vous menez des politiques d'adaptation. Et effectivement, pendant longtemps, on n'a pas voulu parler d'adaptation parce qu'on se disait, oula, si jamais on dit aux États et au gouvernement qu'il va être possible de s'adapter à certains de ces impacts...
Ouais, c'est une porte de sortie.
C'est une porte de sortie, ils ne vont plus rien faire pour essayer de limiter leurs émissions. On se rend compte aujourd'hui que les impacts sont là, que même si on réduit drastiquement nos émissions, un certain nombre de ces impacts sont inévitables et se produiront de toute façon, puisqu'il y a un délai de 50 ans environ entre les émissions de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère et la manière dont le climat va y réagir et va donc produire ces impacts, et que donc il ne faut pas faire l'un ou l'autre, qu'il faut faire l'un et l'autre, qu'il faut et réduire ses émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts du changement climatique.
Donc, il y a deux types d'adaptation qui, moi, me fascinent parce qu'ils semblent issus directement d'un scénario de science-fiction. La capture du carbone,
oui.
Dont il y a une entreprise en Suisse qui est une des leaders sur la capture du carbone, et les îles artificielles pour... il y a un projet qui s'appelle Oceanix,
oui.
Donc pour déplacer les populations des États insulaires qui vont perdre éventuellement tout leur territoire avec la montée du niveau des eaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réaliste?
Pour vous dire le fond de ma pensée, pour employer un terme un peu familier, les deux me paraissent très foireuses.
Okay.
Sur la capture du carbone. Donc l'idée de la capture du carbone, c'est que plutôt que d'envoyer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, voilà. On va le capturer à la source et on va le stocker sous terre. Ça pose trois gros problèmes. Le premier, c'est que ça ne nous incite pas du tout à quelque part transformer nos modes de production. Si on stocke le carbone sous terre, quelque part, il n'y a pas vraiment d'incitatif à transformer nos modes de production et aller vers une économie bas carbone. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ça coûte très cher de stocker du carbone sous terre. Et que donc, plutôt que de payer pour stocker le carbone sous terre, ça serait mieux de ne pas le produire du tout et d'investir dès à présent dans des modes de production et de consommation à bas carbone.
Mmh.
Et le troisième problème, ça c'est un problème technique, c'est qu'à très forte concentration, le dioxyde de carbone, c'est un gaz létal.
Mmh.
On sait que chaque année, il y a des gens qui meurent suite à des intoxications au monoxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est également létal s'il est à très forte concentration. Or là, on aura du gaz qui sera évidemment sous terre à très forte concentration. La question, c'est qu'est-ce qui se passerait si jamais il était mal stocké, s'il venait à s'échapper, par exemple, lors d'un tremblement de terre? On pourrait imaginer que ça soit vraiment un gaz mortel. Et donc, c'est un problème technique qui est assez important aussi. Donc, je dirais qu'il y a trois problèmes qui sont quand même liés et qui me paraissent quand même tout à fait importants, liés à la capture et au stockage du carbone. Pour les îles artificielles, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on me dit souvent. On fait des îles artificielles aux États-Unis, on en fait à Dubaï. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire des îles artificielles pour les populations insulaires dans le Pacifique Sud ou dans l'océan Indien?
Enfin, c'est pas idéal. Comme
qui risquent de voir leur territoire englouti. Le problème, c'est que dans de nombreuses cultures insulaires, notamment dans la culture polynésienne ou micronésienne, l'île est véritablement considérée comme un prolongement du soi. Et donc, l'île sur laquelle vous habitez, sur laquelle vous êtes né, sur laquelle vous comptez mourir, fait partie intégrante de votre identité. Et les gens qui habitent sur cette île vont dire, tant qu'à perdre l'île sur laquelle je suis né, sur laquelle j'habite et sur laquelle je voudrais mourir, plutôt que d'aller sur une île artificielle qui culturellement ne représente rien pour moi, je préfère aller directement sur le continent, à ce compte-là. Mm-hmm. Et donc, je crains malheureusement que cette idée d'île artificielle soit surtout un truc pour se faire mousser un peu dans les cabinets d'architecture, mais ne contienne pas vraiment de perspectives de long terme. Le gouvernement des Maldives avait tenté cette solution. Ouais. Il y a quelques années, il y a maintenant une quinzaine d'années, il y avait eu cette politique aux Maldives qui était la Safe Island Policy et qui consistait à construire des îles artificielles avec des défenses renforcées contre la hausse du niveau des mers pour aussi rassembler la population sur quelques îles artificielles. Ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que les gens ne voulaient pas y aller et ça ne les intéressait pas de quitter leur île.
Mmh. D'accord. On va prendre les questions des auditeurs sur Facebook. Donc voilà, merci. Alors,
je vois qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, oui. Je vais lire la première, je choisirai ensuite. Donc, très concrètement, quelles sont les mesures, autres que l'arrêt des voyages aériens et de la viande, la consommation de viande, que les individus peuvent prendre pour lutter contre le changement climatique?
Effectivement, on parle beaucoup effectivement, du transport aérien ou de la consommation de viande parce que ce sont aujourd'hui des types de consommation qui sont encore réservés aux populations les plus favorisées de la planète. Seuls 15% de la population mondiale ont déjà pris l'avion, par exemple. Effectivement, on focalise beaucoup d'attention là-dessus. Et je pense que le problème, c'est qu'on oublie parfois que l'empreinte carbone des gens se trouve pas toujours là où ils l'imaginent. Et je le dis singulièrement ici, puisque nous sommes en Suisse, qui est aussi un pays avec une industrie bancaire tout à fait importante, beaucoup de l'empreinte carbone des gens se trouve souvent dans leur épargne. Et beaucoup de produits bancaires, aujourd'hui, reposent sur l'investissement dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, nous continuons à investir dans les énergies fossiles, à la fois sous forme de financement privé et public, plus de 6% du PIB mondial. C'est-à-dire que plus de 6% de la richesse produite dans le monde chaque année retourne directement aux industries fossiles. Et on continue à investir, notamment via des produits bancaires, dans ces industries. Et je pense que vraiment, un des premiers leviers pour lutter contre le changement climatique, ça va être de réorienter ces investissements. Ça va passer, bien entendu, par les politiques de subsides des États. En France, par exemple, pour 1 euro donné en subvention aux énergies renouvelables, on donne encore 2 euros de subvention aux énergies fossiles. Et donc, ça crée une distorsion du marché qui est véritablement criminelle. Et puis, il faut que les gens prennent conscience aussi de l'empreinte carbone de leur épargne et puissent aussi, quelque part, interroger leur banque et contester le fait que leur épargne, souvent à leur insu, soit utilisée pour financer des projets dans les énergies fossiles. C'est d'ailleurs ce que certains activistes suisses ont tenté de dénoncer avec les projets notamment d'UBS, qui est une banque qui investit encore énormément dans les énergies fossiles. Et donc là, je pense qu'il y a un levier d'action tout à fait important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur l'avion ou sur la viande. Nous avons une consommation excessive aujourd'hui de l'avion et de la viande, et donc il faut parvenir à une consommation plus rationnelle de cela, mais il ne faut pas oublier aussi certains leviers d'action que nous avons à disposition et dont souvent nous ne sommes pas conscients.
D'accord. Une autre question qui est simple, mais en fait très profonde.
C'est souvent le cas des questions simples.
Voilà. Quelqu'un te demande, toutes ces mesures individuelles ne sont-elles pas vaines si les États ne font rien? Puis ça me fait penser en fait... aux États-Unis, où l'administration de Trump, qui ne s'est pas engagée ni dans le traité de Paris, ni généralement,
oui,
où les États, la Californie, New York, ont commencé à créer des alliances, puis en fait, ont presque fait ce que l'État fédéral n'aurait pas pu faire, mais quand même, qu'ils ne sont pas arrivés à vraiment à remplacer l'État fédéral, à remplacer Washington.
C'est vrai qu'un motif de découragement, je crois, aujourd'hui de beaucoup, est de se dire finalement qu'est-ce que je peux faire moi, qu'est-ce que mes actions individuelles vont avoir comme importance si les grandes entreprises et si les gouvernements ne font rien. Et c'est vrai qu'effectivement, si on additionne uniquement les actions individuelles qu'on peut prendre, on ne va pas y arriver. On estime que la part des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui est contrôlée par les choix individuels, par les choix de consommation individuels que nous posons en tant que consommateurs, elle varie entre 25 et 40% selon les individus et selon les pays. Ça veut dire que la majorité de l'effort, il va devoir être fait par les gouvernements ou par les entreprises. Mmh. Et ça peut avoir un côté un peu déresponsabilisant. Mais je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous concentrons trop sur ce que nous pouvons faire en tant que consommateurs et pas suffisamment sur ce que nous pouvons faire en tant que citoyens. Je suis frappé de voir comme beaucoup, de plus en plus, considèrent qu'ils n'ont plus de prise sur la décision collective, que ce que font les gouvernements ou les entreprises, ils ne peuvent rien faire pour changer cela. Et je pense qu'il est vraiment essentiel que chacun se réapproprie la question climatique et ce qu'il ou elle peut faire, non seulement en tant que consommateur, parce que ce que nous pouvons faire à notre niveau, ça reste une condition qui, certes, n'est pas suffisante, mais qui reste nécessaire. On ne pourra pas se passer des changements de comportement individuels, mais qu'il faut aussi qu'on se l'approprie comme citoyen et qu'on pèse à nouveau sur les choix collectifs des gouvernements et des entreprises. Un des plus grands leviers d'action contre le changement climatique, ça reste le bulletin de vote. Et je crois qu'il faut absolument que nous reprenions conscience de cela, et c'est pour ça que la lutte contre le changement climatique ne pourra pas être un succès si on ne résout pas aussi la crise de démocratie représentative et l'impression que les gens ont de ne plus être représentés, de ne plus avoir voix au chapitre, de ne plus peser sur les décisions collectives. Il ne faut surtout pas que, quelque part, le citoyen et le consommateur ne se parlent plus. Il faut, au contraire, mettre les deux en adéquation.
Bon, puisqu'on est en Suisse, quelqu'un a une question très suisse. Est-ce que le World Economic Forum et le Davos Summit sont devenus les seules plateformes où parler de changement climatique?
Ce sont pas, c'est heureusement pas les seules plateformes, parce que malheureusement, ce n'est pas des plateformes qui permettent véritablement une action. Je pense que ce sont des forums de discussion utiles et nécessaires, mais qui n'ont pas de pouvoir décisionnel. Le forum de Davos ne prend pas de décision contraignante. Mais par contre, je pense qu'il est très significatif de voir que ce sommet annuel de l'économie tient de plus en plus compte de la question climatique. Et année après année, les questions de climat et d'environnement prennent une place de plus en plus importante dans ces forums, et je pense que c'est une excellente nouvelle. Ça prouve quelque part qu'on réalise que les questions de climat, ce n'est pas juste une question d'environnement. Ouais. C'est une question qui est une question politique, économique et sociale très profonde, et donc il faut absolument, oui, que le monde politique s'en saisisse, que ça devienne un sujet de discussion dans les forums économiques, très bien. Il faut que ça devienne un sujet de débat public, et je dirais que c'est une des grandes victoires et un des grands succès des mobilisations des jeunes, c'est d'avoir fait rentrer le climat en démocratie et de l'avoir propulsé, je dirais, sur le devant de la scène des débats publics. Il faut aujourd'hui absolument faire sortir la question du climat du silo environnemental dans lequel elle a longtemps été confinée, et donc tant mieux si elle est abordée au Forum de Davos, je pense que c'est effectivement un moyen de le faire.
D'accord. Donc, il nous reste 2 minutes. Une dernière question. On va essayer de revenir sur la question du COVID-19. Donc, l'effondrement sanitaire comme celui-ci semble, à la personne qui pose la question, une opportunité parfaite pour booster les causes environnementales et celle de la défense des minorités. Quels seraient les moyens, selon vous, d'initier un changement global dès l'affaiblissement du COVID-19? Donc, si je peux me permettre d'interpréter la question, on a vu avec le COVID-19 une baisse des gaz à effet de serre assez subite. Est-ce que c'est l'occasion de réimaginer l'économie, quoi?
Tout à fait. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, la mesure qui aura sans doute eu le plus gros impact sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce n'est pas une mesure qu'on aura décidée pour raisons climatiques, c'est des mesures qu'on aura prises pour des raisons sanitaires, pour se protéger du virus. En réduisant les trajets en avion, en réduisant la production industrielle, on estime par exemple qu'au mois de février, le trafic aérien a baissé de 4,3%, que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ont baissé de 25%. Et donc je m'attends en 2020, même s'il y aura évidemment sans doute après la crise un certain rattrapage qui sera fait, je m'attends néanmoins à ce qu'il y ait une baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour la première fois depuis très longtemps. Jusqu'ici, elles continuaient d'augmenter au rythme de 1% chaque année. Et donc, effectivement, il faut pouvoir se poser la question de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Est-ce qu'on va revenir à la normale comme avant et considérer que cette crise a été un moment tout à fait exceptionnel et passager et que quelque part, il va y avoir un rebond des émissions de gaz à effet de serre comme on l'avait vu après la crise économique et financière de 2008-2009, ou est-ce que ça va être l'opportunité, quelque part, de réfléchir à toute une série de mesures que nous pourrions mettre en place, mais qui, cette fois-ci, seraient des mesures choisies plutôt que des mesures subies. Le grand risque, évidemment, c'est que les mesures que nous mettons en place pour faire face au Covid-19, au coronavirus, ce sont des mesures subies pour le moment et pas vraiment des mesures que nous avons choisies. Et donc le grand enjeu, ça va être de voir comment nous allons pouvoir transformer ce que nous subissons en ce que nous choisissons. Comment est-ce qu'on peut transformer la contrainte en un projet politique? Ça, c'est un défi formidable pour nos sociétés.
Voilà, donc François Gemène, je vous remercie beaucoup d'avoir participé.
Merci à vous. Merci aux organisateurs et aux organisatrices d'avoir organisé le festival dans ces conditions un peu difficiles. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont suivis en ligne. Et merci à vous pour l'entretien.
Vous écoutiez François Gemène, professeur à Sciences Po Paris à l'Université de Liège, qui était l'invité d'un grand entretien sur le thème géopolitique de l'environnement dans le cadre du Festival du film et Forum international sur les droits humains au mois de mars 2020 à Genève.